Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse, toute première à être connectée aujourd'hui. On espère que ça va bien. Bonjour Marie-André, bonjour Farley. Soyez toutes deux bénies. Alors, j'espère que vous allez bien. Journée qui débute sous le soleil, mais qui va se terminer sous la pluie. Alors profitez-en ce matin. Bonjour Rachel, bon retour, que Dieu te bénisse. Et bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi, la sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia. Je ne sais pas si elles ont pu suivre ces derniers jours, malgré ton séjour à l'extérieur. Donc, on espère qu'elles sont là avec toi ce matin. Bonjour Guy, sois béni. Alors, on est le jeudi 21 avril. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Parce que hier, vous m'avez laissé dire des âneries. En fin de séance, j'étais un peu perdu, je crois. Alors, Rachel, est-ce qu'il y avait beaucoup de neige au Saguenay? Bonjour à la belle-mère. Vous avez encore 5-6 minutes avant qu'on débute officiellement. Vous pouvez aller chercher votre eau, votre jus d'orange. Merci, Marie-André. Idem pour toi. Bonjour à Maya. Maya, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est une première fois parmi nous ce matin. Soyez bénis. Alors, ne soyez pas étonnés si je regarde vers le bas. C'est là où je reçois les indications de qui se connecte, qui écrit. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on passera au moment de l'exhortation, je regarderai un peu plus haut. Bonjour à tous ceux qui se connectent via la page internet de l'Église ou à travers directement un moteur de recherche. Donc à ce moment-là, votre nom n'apparaît pas lorsque vous vous connectez. Donc on ne peut pas vous saluer individuellement comme on le fait avec les autres. On s'en excuse, mais ce n'est pas de notre ressort malheureusement. Bon matin de Marthe en direct de Saint-Jean-Baptiste. Donc ça doit être Marie-Marthe qui est à Saint-Jean-Baptiste, je suppose. Donc bonjour à Rachlaf, bonjour à Marthe. Et c'est dans quel coin Saint-Jean-Baptiste? J'ai oublié. Bonjour Claude. Nihao Yaoi, Yezu Aimi. Oh, Oh, ça a dû être périlleux le retour, Rachel. Manon, bonjour. Bonjour à ma mère. Ok, donc c'est dans la grande région de la Montérégie. Saint-Jean-Baptiste de Rouville. On vous salue en Montérégie. Et bien entendu, bienvenue à vous parmi nous. Bonjour Nathalie. On salue ma mère. On a salué mon père tout à l'heure. Maintenant, c'est ma mère. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour à ton époux, à la petite famille. Bonjour Lucie. Soyez bénis vous aussi. Encore une petite minute. Babette, Andreas, bonjour. Denise, Gérard, bonjour. Louise, Michel, bonjour. Alors, Louise et Michel, je ne sais pas si c'est Facebook qui fait une erreur ou quoi, mais il semble que c'est votre anniversaire à tous les deux. Donc, est-ce que vous avez la même date d'anniversaire, donc date de naissance? J'étais pas au courant si c'est le cas. Donc, Facebook me disait que c'était l'anniversaire de la sœur Louise, mais me disait aussi que c'était l'anniversaire du frère Michel. Alors, peut-être que c'est l'anniversaire de mariage, je ne le sais pas. Je m'en rappelle pas en fait. Donc, on vous salue à tous les deux et on espère que vous passez une belle journée. Donc, puisque Facebook le dit, ça doit être vrai. Donc, ne manquez surtout pas de saluer la sœur Louise et le frère Michel en leur souhaitant un très joyeux anniversaire, respectif ou commun. Voilà. Donc c'est l'anniversaire de Michel. Ok. Donc on peut saluer le frère Michel, Michel Potvin, l'époux de la sœur Louise. Donc Louise, ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Facebook fait une erreur, c'est ça? Ou tu es timide de nous dire que c'est ton anniversaire aussi? Bonjour la sœur Argelia. Ok, alors prions et puis pendant la diffusion. Surtout saluer la sœur Louise et le frère Michel. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse. Bonne route vers le travail. Alors Seigneur, on te remercie pour ce temps que tu nous donnes, pour cette grâce que nous avons, de plonger nos regards dans ta parole. On te demande que tu nous instruises, que tu nous parles, que tu révèles les secrets de ta parole à tes enfants. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Merci de ce cadeau que tu nous fais, de pouvoir librement plonger nos regards dans ta parole et être alimentés spirituellement par elle, afin que nos vies cadrent avec ton plan, ton propos et tes desseins pour chacun d'entre nous. En toute chose, Seigneur, nous t'avons prié ainsi, dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà. Alors la sœur Louise dit que c'est une erreur de Facebook. Ce n'est que l'anniversaire du frère Michel. Alors, saluez le frère Michel avec affection et joyeux anniversaire, Michel. On t'apprécie beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alors je lis pour vous dans Jean au chapitre 21 du verset 1 à 14. Et ce matin, on va étudier essentiellement les versets 9 à 11. Jean 21, du verset 1 au verset 14, la Bible nous dit: Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et je relis pour vous les versets 9 à 11. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. On parle cette semaine de la thématique « À l'école du Christ ressuscité ». Je répète, « À l'école du Christ ressuscité ». Ce passage nous parle d'une rencontre, une troisième rencontre que Jésus va avoir avec ses disciples. En fait, à partir du moment où Jésus ressuscite, trois jours après sa crucifixion, trois jours après sa mise au tombeau, le matin du dimanche, il se lève et sort du tombeau ressuscité, victorieux sur la mort, sur le séjour des morts, sur le péché, et sur le diable et tous ses acolytes. Et entre ce moment où il ressuscite et le moment qu'on appelle l'ascension, donc ce moment où Jésus va donner ses dernières instructions à ses disciples, va partager ce qu'on appelle la grande commission, où Jésus dit à ses disciples d'aller par tout le monde, prêcher à toutes les nations la bonne nouvelle, et de faire de toute nation des disciples. Entre ces deux moments, donc la résurrection et l'ascension, Jésus va se présenter de façon sporadique à ses disciples, à ses proches. Parfois il apparaît à une personne, parfois il apparaît à deux personnes, parfois il apparaît à un groupe de personnes. On nous dit même qu'à un moment donné, il est apparu à 500 personnes. Mais ici, de façon spécifique, il apparaît à 8 personnes. 8 parmi ses disciples. En fait, on sait qu'ils étaient 12 au départ, qu'il y en a un qui a renié Jésus, Judas, donc ils sont rendus à 11. Mais dans cette rencontre, ils sont donc 8 sur les 11 restants. Et hier, ce qu'on a vu, essentiellement ce qui se passe dans notre vie lorsque Christ n'est pas interloqué, lorsque nous ne faisons pas de cas de Christ, lorsqu'on ne reconnaît pas sa présence, ce qui se passe, c'est que sans Christ, On ne sait pas quoi faire, on est désœuvré, parfois même on va retourner à nos pratiques d'antan, et c'était l'exemple des disciples qui reviennent à la pêche, ne sachant pas quoi faire d'autre. Donc sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Puis on a dit que sans Christ, on ne peut de toute manière rien faire, que les instructions pour la réussite de notre existence, les instructions pour la réussite de notre vie ne viennent pas de notre propre intelligence, ne viennent pas de notre expérience personnelle, ne viennent pas de notre sagesse, parce que les disciples retournent à la pêche, sont des professionnels. On se rappelle que Pierre, Jean, Jacques et André sont des pêcheurs de profession. Donc, ils ont déjà eu une entreprise à leur nom, ils ont opéré des barques, ils ont lancé des filets, ils savent comment attraper des poissons. Et là encore, ils se retrouvent, comme à la toute première rencontre qu'ils ont eue avec Jésus, à avoir pêché toute la nuit et rien ne leur réussit. Donc, les instructions pour la réussite de notre travail viennent de Christ uniquement. De surcroît à cela, on nous dit qu'ils étaient incapables de ramener le filet. Ils n'en avaient pas la force, il était trop gros, trop chargé. Donc on voit que sans Christ, sans que Christ appelle à la chose, on ne peut rien faire. Et enfin, ce qu'on fait sans Christ, on le fait mal. Pierre qui va avoir l'ego boosté au plafond, et puis lorsqu'il entend que c'est Jésus qui est sur la plage, lorsqu'on lui dit que c'est Jésus parce qu'il ne l'a pas reconnu, lorsqu'on lui dit que c'est Jésus, laisse ses confrères se débrouiller avec les poissons, se débrouiller avec la barque, se débrouiller avec le filet, et lui saute à l'eau pour aller rejoindre Jésus, faisant passer donc son ego, volontés personnelles, ses passions personnelles, au détriment du bien commun. Alors quand on opère sans Christ, on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien faire, et ce qu'on fait, on le fait mal. J'avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de la suite du texte, on voit les côtés positifs. Alors ce matin, la grande phrase pour résumer l'ensemble des points qu'on va voir ce matin, c'est qu'avec Christ, tout devient possible. Si on a dit hier, sans Christ, il est impossible de faire quoi que ce soit. Ce matin, on dit en contrepartie, si on a Christ dans nos vies, si notre communion avec Christ est dûment établie et opérationnelle, dirons-nous, avec Christ, tout devient possible. Premier exemple, au verset 9. Lorsqu'ils furent descendus, ils virent, même avant ça, c'est lorsque la pêche miraculeuse se passe. On voit que Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Comprenons une chose, ils ont jeté le filet toute la nuit, à droite, à gauche, devant le bateau, derrière le bateau, à plusieurs endroits sur la mer de Tibériade, comme tout autre pêcheur, ben quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas de poissons dans un secteur, ils vont bien entendu dans un autre secteur. Je me rappelle lorsqu'on était plus jeune, on allait à la pêche avec mes parents, et soit on allait à pied, pas tellement loin de la maison, ou sinon on prenait la voiture pour aller à plus longue distance. Mais lorsqu'on essayait ce qu'on appelait un spot en bon québécois, lorsqu'on essayait un endroit et qu'après une demi-heure où on lance la ligne, on ramène l'hameçon, on ramène la cuillère, puis on n'attrape rien, on se dit, bon, ben ils sont pas là, on va aller ailleurs. Alors, on reprenait nos choses un peu plus loin pour essayer d'attraper des poissons ailleurs. On changeait les leurres, on changeait la technique. Alors, soit on mettait un verre et on laissait plomber la chose et on attendait. Soit on mettait une cuillère, une trôle, je crois qu'on appelait à l'époque, qui était peut-être plus attirante pour tel poisson, pour tel autre poisson. On mettait un méné. Ça, c'est des vieux termes qui me reviennent à l'esprit maintenant. Donc, une imitation de poisson qu'on mettait. Et puis, un coup, il était jaune. Puis après ça, on en mettait un rose. Puis après ça, on en mettait un bleu. En disant, peut-être que ça va attirer le poisson. Et quand ça ne marchait pas, mais on partait encore un peu plus loin. Donc, Pierre, Jacques, André, Jean, qui sont là, qui sont des professionnels, qui ont l'habitude d'aller à la pêche. S'ils voient que dans un secteur, ça ne fonctionne pas, ils essaient dans un autre. S'ils voient que d'un côté de la barque, ça ne fonctionne pas, ils essaient de l'autre côté de la barque. Donc, assurément, lorsque Jésus, qu'ils n'ont pas encore reconnu, leur dit de jeter le filet à droite, peut-être que certains d'entre eux se sont dit, ben, on l'a déjà fait même à maintes reprises. Et pourtant, ils vont le jeter. Et cette fois-ci, ça va se passer. Pourquoi? Parce que Christ est capable de créer même au milieu du néant. Christ est capable de faire venir les poissons même au milieu du néant. Ce qui n'existait pas, ce qui ne fonctionnait pas, parce que Christ le dit, au moment où Christ le dit, il y a un claquement de doigts spirituel qui se fait, et puis la chose est possible. De surcroît à cela, toujours dans cette même pensée que Christ crée à même le néant, lorsque les disciples reviennent à terre, la Bible nous dit que lorsqu'ils furent descendus à terre, au verset 9, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Il y a quelques options qui expliquent pourquoi il y aurait du pain, pourquoi il y aurait du poisson et comment il se fait qu'il y aurait des charbons qui sont allumés. Alors, première option, c'est que Jésus serait allé au village pour en acheter. C'est possible, mais c'est peu probable. Pourquoi? Imaginez un peu la personne qui se présente au village, qui sort sa petite poche avec des pièces d'argent, et qui paye, et au moment de payer à la caissière voit qu'il a les mains trouées. Elle regarde un peu plus, puis là, elle regarde sur son front, il y a des marques d'épines profondes. Il y a le visage tuméfié. Elle regarde, et puis ses pieds dans ses sandales sont aussi troués. Assurément, si elle voit ça, il y a la foule du village qui va retentir. Et là, pourtant, on ne voit personne. Donc, peu probable que Jésus soit allé au village acheter quoi que ce soit. Jésus aurait pu aller à la pêche aussi, effectivement. Mais s'il a été à la pêche, comment se fait-il qu'il y a des pains? Peu probable encore qu'il soit allé acheter de la farine et qu'il ait préparé le pain. En fait, l'explication appropriée serait de comprendre que même dans le néant, Christ est capable de tout créer. Et assurément, il est capable, puisque le diable a même dit à Jésus, ordonne à ces pierres lors de la tentation de Christ. Il va dire, ordonne à ces pierres de se changer en pain, et elles vont se changer en pain. Le diable savait que Jésus était capable, Jésus a refusé, mais Jésus était capable de le faire. Alors cette fois-ci, il était effectivement capable de changer des pierres en pain. Il était aussi capable de créer des poissons. Il a pris déjà à l'occasion quelques petits poissons d'un garçon qu'il a multiplié de façon exponentielle pour nourrir des foules. Donc, il a créé déjà des poissons. Jésus est encore une fois capable de créer des poissons. Et allumer le feu, il est le maître au-dessus des cieux. Il est l'absolu maître dans le ciel et sur cette terre. Tout pouvoir lui a été donné, la Bible nous dit, et Jésus va le dire lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il est capable de faire descendre le feu du ciel et d'allumer des charbons. Tout ça revient à dire que peu importe comment le poisson est arrivé, peu importe comment le pain est arrivé, peu importe comment le feu a été allumé, Jésus est capable de créer, même dans le néant. Et dans ta vie, dans ma vie, il arrive des occasions où effectivement on pense que tout est terminé, où on a ce sentiment que le néant nous environne. Il n'y a plus rien qui fonctionne autour de nous. On est peut-être dans la même posture que les disciples qui ont déployé leurs ailes pendant toute la nuit, où on a travaillé, travaillé, il n'y a rien qui a fonctionné. Et même là, sur un claquement de doigts, sur un mot qui sort de la bouche de Jésus, et les poissons deviennent nombreux. Est-ce que Jésus a appelé tous les poissons de la mer de Tibériade à se rendre à un seul endroit sur le côté droit de la barque? Ça se pourrait. Est-ce que Jésus a fait en sorte que, sur sa volonté, les poissons se créent de façon instantanée sur la droite de la barque? Ça se pourrait. Chose certaine, peu importe comment il a fait, peu importe quelle est la méthodologie qu'il a utilisée, Jésus, encore aujourd'hui, est capable de créer à même le néant. Le deuxième point important, lorsqu'on nous dit qu'avec Christ, tout devient possible, se trouve dans le verset 10. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Apportez des poissons que vous venez de prendre. C'est quand même intéressant. Il y a des poissons sur la plage, puisque Jésus est en train d'en faire cuire. Mais il regarde ses disciples et il dit, de ces poissons que vous venez de prendre, amenez-les, on va les faire cuire. Jésus est en train de dire, le fruit de votre travail m'intéresse. Et Christ va associer l'œuvre de ses disciples à la sienne. Christ associe encore aujourd'hui l'œuvre de tes mains à son œuvre, à lui. Très souvent, on regarde ce qu'on a fait de nos mains, ce qu'on fait de nos mains, et on a une attitude un peu méprisante par rapport à ce travail. Et on dit, mais ça ne peut pas honorer Christ. Et assurément, aucun d'entre nous n'est à mesure d'honorer Christ comme il le mériterait. Aucun d'entre nous n'a ni les mots, ni les actions, ni l'attitude, ni la compréhension qu'il faut pour honorer Christ comme il le mériterait. Mais en dépit de cela, en fait, Jésus fait fi de cela et il dit, moi, ça m'intéresse ce que tu fais. Christ est intéressé à ce que tu fais et il veut associer ce que tu fais à son plan de gloire. Mais ne nous méprenons pas. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il dit, des poissons que vous avez attrapés, amenez-les. De la pêche miraculeuse qui vient de survenir, amenez-les. Et je fais exprès de dire de la pêche miraculeuse qui vient de se passer, amenez-les. Pourquoi? Parce que même ces poissons que les disciples aujourd'hui pourraient se targuer de dire, hey, c'est nous qui l'avons pêché et qui l'avons traîné jusqu'à la plage. Je vous rappellerai que pendant toute la nuit, il n'y avait rien qui s'était passé. Pendant toute la nuit, il n'y avait aucun poisson qui avait été attrapé. Et c'est simplement au moment où Jésus a parlé et qu'il a dit à ses fils, qu'il a dit à ses enfants, jetez le filet à droite, que là le filet s'est rempli. Alors même ce que tu crois qui est le fruit de ton travail, bien, il vient à la base de ce que Jésus te permet de faire. Rien de ce que tu es capable, rien de ce que tu peux, rien de ce vers quoi tu aspires, n'est le fruit unique de toi. Tout vient de la volonté parfaite de Christ. Tu crois avoir des habiletés, tu te crois un grand chanteur, on te dit être un grand chanteur, sache que sur un clin d'œil, sur un claquement de doigts, cette voix peut disparaître. Tu penses être sage plus que quiconque? Sache que sur un claquement de doigts, sur un clin d'œil, sur un instant, une fraction de seconde, toute ta sagesse peut te quitter. Tu connaissais tout et à un seul moment, tu ne connais plus rien. Tout ce que tu es, tout ce que tu peux, tout ce que tu aspires à être, vient de ce que Dieu donne. Et s'il décide de ne plus donner, tout cela t'est donc retiré. Mais de ce qu'il te donne, tu le ramènes à Christ. Et c'est là où on voit comment le travail du Seigneur s'opère. Le grand malheur, c'est que très souvent, à un moment donné, même si au début de notre course, on dit « tout ce que je fais, c'est à cause de Christ », à un moment donné, on devient des habitués de ce qu'on fait. On devient des professionnels de notre fonction, de notre ministère, de notre service. Et à un moment donné, on en perd la source. On perd cette conception, on perd ce rappel que tout ce que je suis, que tout ce que je peux, je ne le dois pas à ma propre personne, à mes propres efforts, à mes propres habiletés, mais je le dois à Christ. C'est ce que ce passage nous enseigne. Lorsque Christ est en train de dire « Amenez-moi les poissons », il est en train de dire en fait « Ces poissons que moi je vous ai permis de pêcher, amenez-les, on va les utiliser. » Donc oui, c'est toi qui as servi à lancer le filet. Oui, c'est toi qui as servi à resserrer le cordage du filet. Mais le poisson par lui-même, c'est Christ qui l'a pourvu. Tu étais là où Christ voulait que tu sois, en train de faire ce qu'il voulait que tu fasses, au moment où il voulait que tu le fasses. Et ce faisant, tu as vu la gloire et l'impossible se réaliser à travers toi. Et cela n'est possible que si Christ est avec moi. Donc si Christ te permet d'attraper des poissons, c'est parce que Christ l'a voulu et t'autorise à le faire et te permet de le faire et te donne ce qui est nécessaire pour le faire. Et à ce moment-là, Christ veut s'associer avec ta force active. Christ veut s'associer avec ce canal que tu es. De toute éternité, Dieu t'a créé avec un plan, avec un projet, avec un propos. De toute éternité, il ne t'a pas créé tout simplement pour que tu passes 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans ici-bas sur Terre, tout simplement à faire le touriste sur la croûte terrestre. Non, Christ t'a créé, Dieu t'a créé avec un propos éternel, avec un mandat qu'il voulait que tu remplisses. Et ce mandat, c'est lui qui te l'a donné. Pour ce mandat, il t'a donné les habiletés nécessaires. Pour ce mandat, il te donne les indications nécessaires. Pour la réussite de ce mandat, il te donne tout ce qui est nécessaire. Et après ça, il te dit, ramène les fruits à la maison. Donc Christ s'associe à notre œuvre, ou il associe notre œuvre à la sienne. Et dernier point ce matin, on a vu tout à l'heure, les disciples peinent à remonter le filet. Mais les filets ne se rompent pas. Pierre voit cela, et au lieu d'aider ses disciples, ses frères, ses collaborateurs, ils sautent à l'eau pour aller retrouver Jésus. À peine sont-ils arrivés sur la plage, que Jésus dit, « Mais moi, je suis intéressé à vos poissons. » Alors Pierre réalise, « Hey, je suis venu là, mais ce que Christ voulait, c'était que j'aide avec le filet, que j'aide avec le poisson. » Alors Pierre monte dans la barque et tout seul va prendre le filet rempli de 153 grands poissons et va les tirer et les amener jusqu'à Jésus. Je prends une petite gorgée. Tout à l'heure, il y avait sept hommes qui étaient incapables de faire le travail. Et là, un seul, Pierre, arrive à ramener l'ensemble des filets. Non seulement il y a le miracle que le filet ne se rompt pas malgré la grosseur de la pêche, mais de surcroît à cela, un simple homme est capable de le ramener. Imaginez ce qui se serait passé si Pierre avait fait son travail au moment où il devait le faire. Si Pierre était resté dans la barque, ben ses frères auraient moins peiné, ses frères auraient moins sué à la tâche. En fait, l'élément important et l'élément nécessaire pour que les poissons soient pleinement ramenés, c'était Pierre. Mais c'était Pierre qui accomplissait son travail au travers le travail de ses frères et de ses collaborateurs, avec ses frères et ses collaborateurs, avec cet esprit d'équipe. On a perdu du temps parce que Pierre a sauté à l'eau. Mais Christ rend malgré tout capable de l'impossible. Dans un contexte particulier, il avait oint un homme particulier pour une tâche particulière au sein de l'ensemble de la troupe. Parmi les sept, il y en avait un qui avait un rôle à jouer particulier, Pierre, qui devenait l'ancrage important pour ramener les poissons. Mon frère, ma sœur, quand on ne remplit pas notre rôle dans l'équipe, on freine le travail de l'équipe. Mais quand on remplit notre rôle dans l'équipe, parfois Dieu nous permet d'accomplir ce qui était impossible. Lorsqu'on est à notre place, affairé à notre tâche, voué à notre travail, résolument impliqué dans notre travail, Christ nous permet de faire l'impossible. Ce qui est merveilleux ici, c'est que Christ aurait pu dire, non, Pierre, tu as déjà la grosse tête, tiens-toi à côté. Non, le Seigneur lui a permis et il l'a fait. Ce qui est merveilleux dans l'histoire de Pierre, c'est que il se fracasse le nez si souvent. Il dit une chose, puis il se fait ramasser. Il dit une grande chose, puis il se fait ramasser. On se rappelle lorsque Jésus va demander à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? » D'abord, les autres, ceux qui sont à l'extérieur. Et on lui dit, « Ah, mais il y en a qui disent que tu es la résurrection de Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es le retour du prophète Élie. D'autres disent que tu es un grand docteur, un grand prophète. » Et Jésus les regarde en leur disant, « Mais vous, précisément, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre va dire, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, celui qui devait venir. » Et Jésus va lui dire, « Cette révélation, Pierre, ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui te l'a donnée. » Et sur cette révélation qui vient directement de mon Père, qui vient directement des cieux, je bâtirai mon Église. Alors Pierre est le récipiendaire de la plus grande et la plus merveilleuse des révélations, comme quoi ce Jésus qui est devant lui est le Christ, le Messie qu'on a si longtemps attendu. Mais ce Messie, quelques versets plus tard, après que le Messie ait dit qu'il devait souffrir, mourir à la croix pour ressusciter 3 jours plus tard, Pierre va lui dire, non, ça ne se passera pas comme ça. Ça n'arrivera pas comme ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond à ce même Pierre, qui avait pourtant une révélation qui venait du ciel quelques minutes plus tôt? Il lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Il le compare au diable avec ses pensées humaines, ses pensées charnelles. Il lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Pierre est au top et au sommet de la foi, puis dégringole dans un abysse profond. Pierre va marcher sur l'eau, le seul qui sort de la barque sous l'appel de Jésus, marche sur l'eau et se met à couler. Pierre qui va dire, « Jésus, tous pourraient t'abandonner, mais moi je vais te suivre jusqu'à la fin. » Et quelques minutes, quelques heures plus tard, il est en train de se chauffer dans la cour où Jésus se fait battre, et par trois fois comme Jésus l'a annoncé, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Et ici, après la résurrection, Pierre saute à l'eau, abandonne sa tâche pour retourner par la suite l'accomplir. J'aimerais te dire que la plus belle chose dans l'histoire de Pierre, c'est qu'à chacune de ses failles, il y a eu l'occasion de se reprendre. Lorsque Jésus va ressusciter, une des premières choses qu'il va dire à Marie qui est là au tombeau, c'est « Allez dire à mes disciples et à Pierre que je les attends en Galilée. » J'aime cette phrase « Allez dire aux autres et à Pierre. » Précisément celui qui m'a renié, précisément celui qui s'est fracassé le nez encore une fois. Jésus va dire à Pierre à un moment donné, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, paie mes brebis, fais attention à mes brebis, prends-en soin. Mon frère, ma sœur, avec Dieu, tu es encore capable aujourd'hui de faire l'impossible. Pierre est devenu un des grands dans les patriarches de la foi, dans les précurseurs de l'Église ou dans les patriarches de l'Église, il est devenu un grand. Il est un des personnages importants du Nouveau Testament. Mon frère, ma sœur, Dieu a des plans pour toi et je te le répète. Avec Christ, tout devient possible. Il est capable de créer même lorsque rien n'existe. Il est capable de créer à même le néant. Christ veut associer ton œuvre à la sienne. Sachant de toute manière que tout ce que tu es capable de faire, c'est parce qu'il t'en donne la grâce. Mais le résultat qui sort de ton travail, Christ veut l'associer à son œuvre. Et enfin, Christ veut te rendre capable de faire l'impossible. Ce timide que tu pourrais être, ce chétif que tu pourrais être, cette personne gênée que tu pourrais être, Dieu veut utiliser qui tu es et t'amener à faire des prodiges. Et ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme. Comprends-tu que tu as la possibilité de sauver la vie éternel de quelqu'un, si tu parles, si tu témoignes, si tu parles de celui qui est le sauveur encore aujourd'hui. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui accomplit un acte héroïque et qui sauve la vie de quelqu'un qui était en train de se noyer, on félicite, on applaudit, on acclame cette personne. Lorsque Christ voit que tu te dévoues pour le salut, pour la vie éternelle, pour secourir celui qui est perdu. Est-ce que tu penses que Dieu ne va pas t'honorer? Il te rend capable de faire l'impossible. Donc, mon frère, ma sœur, avec Christ, tout t'est rendu possible. Avec Christ, tu peux tout faire. Prions. Merci Seigneur pour ce rappel qui motive, qui encourage, qui fortifie et qui nous met en même temps au défi. Au défi de croire que même lorsque toutes les circonstances et les situations sont contraires, sur un simple mot qui sort de ta bouche, sur un claquement de tes doigts, la chose devient possible. Alors que tout s'effondrait, alors que tout s'écrasait, parce que tu le dis, tout est changé. La malédiction change en bénédiction sous l'impulsion de ton mot, de tes mots. Seigneur, merci parce que tu nous permets de prendre une part active à l'avancement de ton royaume. C'est toi qui nous rends capables, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous équipe, c'est toi qui nous forme, c'est toi qui nous rend aptes à faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Et le résultat de notre travail, tu l'associes avec le tien. Merci Seigneur, quel honneur pour nous. Et enfin Seigneur, tu nous rends aussi capables de faire ce qui était impossible à nos yeux. Ce qui était impossible aux yeux de l'homme. Peut-être qu'on a regardé ma sœur, mon frère, depuis déjà longtemps, on dit de celui-là, il ne sortira rien de bon. Seigneur, c'est ce qu'on disait de Bethléem. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Bethléem? Mais de Bethléem est sorti le Sauveur, le Messie. Bethléem qui était la plus petite parmi les plus petits. D'elle est sorti le Sauveur. Alors Seigneur, de nos vies si faibles, de nos mains si faibles, tu es encore capable d'accomplir l'impossible. On te donne nos mains, Seigneur, pour que tu les utilises à ta gloire. On te donne nos pieds pour que tu les utilises à ta gloire. On te donne nos vies pour que tu les utilises à ta gloire. On te donne nos lèvres pour que tu les utilises à ta gloire. Seigneur, nous voici. S'il t'en plaît, s'il est de ton désir, utilise-nous comme tu le voudras, pour ta gloire. Et uniquement pour ta gloire. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Encore une fois, merci d'avoir été là. Je ne ferai pas la même erreur qu'hier. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'on était mardi, alors qu'on était mercredi. C'est le pasteur André qui m'a dit que j'en perdais des morceaux et il avait tout à fait raison. Donc aujourd'hui, on ne se trompe pas. On est jeudi 21 avril 2022. Ceux qui se sont inscrits pour la séance de baptême qui a lieu dimanche, vous savez que les baptêmes donc sont précédés avec une petite rencontre d'information, un petit cours qui est donné ce soir à l'église. Donc si vous vous êtes inscrit, vous avez reçu déjà un appel ou un message de la part du pasteur André pour être là pour le cours ce soir à l'église pour la séance de baptême. On vous invite donc à être là. De surcroît à cela, donc on se retrouve demain matin. Demain, c'est journée de jeûne et de prière, vendredi. On va terminer notre leçon le matin sur l'école du Christ ressuscité. Demain, on va voir qu'avec Christ, l'important, ce qui est important, s'enseigne et s'apprend. On va avoir quatre ou cinq choses à partager avec vous. Et puis demain soir, on se retrouve à 19h, heure de Montréal, bien entendu, pour un temps de prière et d'intercession. Donc ce soir, en direct de l'église ou à l'église même, pour ceux qui vont se faire baptiser, vous avez rendez-vous avec le pasteur André. Pour les autres, on se retrouve demain matin et demain soir, puis, bien entendu, dimanche, pour célébrer le Seigneur. Alors sur ce, passez une bonne journée. Rappelez-vous qu'avec Christ, tout devient possible. Bonne journée à tous.